Nous allons encore ouvrir notre Bible dans l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, excusez-moi. C'est des épîtres très proches par le nom. Hein. C'est Philippiens, donc. À partir du verset 7, nous allons lire jusqu'au verset 14. Philippiens, chapitre 3. Versets 7 à 14. Oui, je me comprends parce que je sais où je suis. Je pense que tout le monde l'est aussi. Voilà. Eh bien, nous avons vu pas mal de choses sur ce texte qui est très dense parce qu'il y a presque chaque mot nous enseigne une vérité supplémentaire par rapport non seulement à la vie chrétienne, mais par rapport à Jésus-Christ et le programme de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous a donné un programme. Il y a une manière de vivre la vie chrétienne qui est juste, et il y en a une qui est fausse, ou plutôt il y en a d'autres qui sont fausses. Et c'est comme cela que nous devons savoir où est la vérité. La vérité est en Jésus-Christ, et dans notre attitude aussi par rapport à Jésus-Christ. Donc nous avons vu des choses essentielles, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on a vu que Paul regardait toute chose comme une perte. Tous ses avantages qu'il avait dans le judaïsme, il les regardait comme une perte. Alors que ce n'était pas rien du tout. Il était juif, né d'Israël, il était pharisien, il était de la tribu de Benjamin. Tout cela avait de la valeur. Mais par rapport à la valeur suprême, tout cela est sans valeur. Il y a mieux. Bien que cela soit très important, eh bien, il y avait mieux que cela. Et bon, Paul alors dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte. Et même, il dit, je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. On a vu, hein, regarder toutes choses comme de la boue, gagner Christ. On a vu aussi que la justice de Christ, connaître Christ. Et puis, on a vu qu'il fallait aussi mourir et que nous sommes morts avec Christ. Et je voudrais revenir sur cela parce que c'est important pour la suite. Quand on est mort, je vais m'expliquer comme il faut. Nous sommes morts, voilà, pour être tout à fait clair. Vous vous sentez bien vivant, mais en fait, spirituellement, vous êtes mort. C'est une vérité absolue. C'est-à-dire que je vous ai montré cet exemple. Si je prends cette feuille de papier et que je la mets dans un livre, tout ce qui va arriver au livre va arriver à la feuille de papier qui est dans le livre. Et c'est comme cela que nous sommes morts avec Christ. Christ a été crucifié sur la croix. Mais quand il a été crucifié, nous l'avons été avec lui. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir. Nous n'avons pas à chercher à être crucifiés. Nous le sommes. Et nous devons accepter ce fait parce que c'est un fait réel. Nous avons été, pour exprimer une vérité biblique, plantés dans la mort de Christ. Voilà. C'est nous sommes inclus dans la mort de Christ. Christ est crucifié est mort pour nos péchés. Et nous, eh bien, nous sommes morts avec lui. C'est une vérité que nous devons accepter. Le monde n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. L'influence du diable, c'est fini. Mais vous dites, mais je la ressens très très fortement. C'est quelque chose qui me harcèle et qui me tourmente. C'est vrai. Mais c'est faux aussi. Nous sommes morts par rapport à ces choses. Et il faut l'accepter. Et c'est un pas de foi, exactement comme Jésus-Christ est mort sur la croix, et nous l'avons un jour accepté comme notre sauveur. Et nous n'avons pas de nouveau répété le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est une fois pour toutes, et nous devons un jour l'accepter par la foi. Et le fait que nous sommes morts avec Christ, eh bien nous l'acceptons par la foi. C'est un fait. Nous n'avons pas à le produire. Nous n'avons pas à chercher à nous torturer la conscience et la mémoire pour nous dire « je suis mort ». Je peux vous donner ma petite expérience. C'est que pendant plusieurs années de ma vie, j'ai cherché à être mort. Alors, je peux vous dire, j'ai vraiment, vraiment persévéré. Hein. Et j'étais mort. Oui, je suis mort. Tous les matins, je suis mort. C'est fini. 5 minutes après, je manifestais que j'étais quand même bien vivant. Hein. Et c'était quelque chose, c'était un combat très long et très dur. Et je me rappelle très très bien le jour où j'ai lu un verset, je vais vous le lire parce que il a été pour moi le trait de lumière qui a bouleversé toute ma manière de voir. C'est au chapitre 5 de Romains, Et c'est le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et ça, c'était pour moi un trait de lumière. Mais je me suis dit, mais je suis vivant. Je suis vivant. Je suis mort, c'est vrai. Mais aussi, je suis vivant. Parce que c'est vrai que l'on est mort. Mais il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc il faut d'abord être mort. Mais comme Christ est mort et que je suis mort avec lui et je suis planté dans sa mort, mais je suis aussi planté dans sa résurrection. Et je suis vivant. Et Satan veut toujours nous tenir dans le côté négatif. Et il y a des prédicateurs qui prêchent le côté négatif constamment. Alors qu'il y a un côté positif. Et c'est ce côté positif qui est, nous sommes vivants. Je vais vous donner une petite remarque. Vous savez quel est le premier mot qu'un enfant apprend? Non. C'est très important, vous savez. Vous savez pourquoi ils l'apprennent, non? Oui. Mais ce n'est pas ce que je voulais que tu dises. Quelqu'un d'autre? Oui. Mais je vais vous le dire tout simplement. Mais parce que les adultes ne font que lui dire non. Il ne lui dit jamais oui. S'il lui disait oui, il dirait oui. Mais il dit non parce qu'il entend toujours non. Et qu'il dit non avec d'autant plus de force et d'impétuosité que les parents lui disent non avec beaucoup de force et d'impétuosité. On dit, mais il est mal élevé, il dit toujours non, il est toujours sans rebelle et tout ça. Mais les parents lui parlent sur un ton qu'il répète. Il n'a pas inventé. Non, ce n'est pas un mot qu'il a inventé, il a entendu. Et c'est pour cela que l'éducation des enfants... Eh bien, il faut les prendre par un autre côté. Là, nous n'avons pas nos psychologues qui sont là. Mais ils nous diraient, on les prend par le oui. On les amène à dire oui. On les amène à marcher dans le bon chemin. C'est parce qu'on les laisse faire un peu n'importe quoi qu'on est obligé de leur dire non. Parce qu'on n'est pas en train de s'occuper d'eux. Donc, comme les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux, eh bien, ils agissent en faisant une bêtise. Et évidemment, ils entendent non. Ils entendent crier, ils entendent des méchancetés, ils entendent parfois des paroles dures. Et tu es toujours comme ça, et tu fais toujours des bêtises et tout ça. Et c'est négatif, négatif, négatif. Alors qu'un enfant, pour se construire, il a besoin d'entendre des paroles positives, qui le construisent. Et Dieu, c'est notre Père céleste. Il ne veut pas nous dire non, il veut nous dire oui. Et ce oui est dans la résurrection de Christ. C'est une vie de ressuscité. Ce n'est pas une vie de mort. Ce n'est pas une vie où il y a toujours non, 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 non. Ça, c'est la loi. La loi dit, tu ne feras pas, tu ne mentiras pas, tu n'iras pas, tu feras, etc., etc. Et c'est toujours cette alternative de commandement. Mais dans la vie de résurrection, il y a tout à fait autre chose. C'est une vie. C'est une vie, excusez-moi de le dire comme ça, c'est une vie vivante. C'est une vie qui s'épanouit. Une vie qui prolifère, c'est une vie qui jaillit, c'est un jaillissement de vie. De même que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et c'est la plus belle des choses, hein. C'est une découverte. Quand dans la vie chrétienne, on se rend compte que nous ne devons pas être constamment écrasés par les 10 commandements et par les oui et les non, et tu ne feras pas, et tu n'iras pas, et tu ne ceci et cela, mais je marche dans la vie. Dans la résurrection. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien, par quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes vivants. Et nous avons une puissance de résurrection qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le sceau, la pierre, les soldats, le diable, la mort, tout cela n'ont pas pu retenir Christ dans le tombeau. C'est la vie qui a jailli, qui ne pouvait pas être retenue. Le prince de la vie ne pouvait pas être retenu dans la mort. Et nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Et ça, c'est un cri de victoire. Et nous nous réunissons chaque dimanche pour fêter la victoire de Christ sur la mort, par la résurrection. Et par la même occasion, nous proclamons notre victoire et notre résurrection. Nous sommes vainqueurs sur la mort, sur le péché, sur le diable, sur le monde. Nous n'avons, le diable et toutes ces interventions négatives n'ont de pouvoir sur nous que quand on le permet. Vous me direz, c'est très difficile de dire non. Mais dites oui. Dites oui à Christ. Ne dites pas oui au péché. Dites oui à Christ. Marchez dans la vie. Et plus nous marchons dans la vie, et moins le péché a de pouvoir sur nous. Plus nous regardons le péché, et plus il a de pouvoir sur nous. J'ai toujours un petit test quand je parle de ces choses. Je l'ai donné mardi aux étudiants. Donc, ils vont pas être étonnés de la chose. Mais je vais vous donner un chiffre. Vous allez penser à un chiffre. Pensez-le, hein. Vous l'avez bien en tête? Votre chiffre, vous l'avez? Maintenant, oubliez-le. C'est fini. C'est plus à peine. Oubliez-le. Vous l'avez oublié? Non, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est le pouvoir de fascination qu'a le péché. Plus vous regardez le péché, plus il vous tient. Ce qui vous tient, ce qui doit vous tenir, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu, approfondissez-la, apprenez des versets par cœur, priez, cherchez le Seigneur, occupez-vous de lui. Le péché, mettez-le de côté, ne pactisez pas avec, ne le fréquentez pas, fréquentez Christ. Et plus Christ va grandir en vous, et plus la puissance de résurrection va régner dans votre cœur et avoir du pouvoir dans votre vie. C'est un pouvoir de libération. C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Et pour moi, ce verset de 17, chapitre 5 de Romains, je me suis dit, l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront-ils dans la vie, dans ma vie, par Jésus-Christ, lui seul? C'est un règne, c'est un pouvoir. J'ai un pouvoir. Je peux dire non. Mais je peux dire oui à Christ. Je peux dire oui à la vie. Et c'est parce que je dis oui à la vie et que je dis oui à Christ que ces choses-là n'ont plus de pouvoir. Et ça, vous savez, c'est ce que je vous donne. C'est votre vie chrétienne. Toute votre vie chrétienne tient là. Vous marchez dans l'obéissance à Christ. Vous regardez vers lui. Vous regardez Christ comme le chef de votre vie, comme celui qui règne dans votre vie, qui a pris le pouvoir dans votre vie. Et sa vie, son pouvoir, son règne deviennent le vôtre, parce que vous avez Christ en vous. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, on pourrait écrire des bibliothèques entières sur Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Cela dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Le monde peut rugir, le diable peut se déchaîner, les persécutions peuvent venir, tout peut s'effondrer autour de vous. Christ restera toujours le rocher des siècles qui ne pourra jamais être ébranlé. Et s'il est votre rocher et s'il est votre vie, vous ne serez jamais ébranlé, vous ne serez jamais troublé. Vous marcherez avec sérénité en comptant sur lui, en regardant vers lui. Vous regarderez à celui qui a triomphé de la mort, qui a écrasé la tête du diable, celui qui proclamait que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre. C'est un cri aussi de victoire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quelque chose, vous savez. Ce sont des paroles de victoire, des paroles de puissance, parce que Christ nous a donné sa victoire, sa résurrection. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas une religion. Parce que la religion vous dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça, il faut aller là, il ne faut pas... Et puis vous torturez la conscience et vous torturez votre vie. Et vous êtes les bourreaux de votre corps, les bourreaux de votre âme. C'est ce que sont la plupart des adeptes fervents de leur religion. Ils se persécutent eux-mêmes. Si vous regardez l'hindouisme, vous les voyez en train de croupir dans une mare en attendant d'atteindre le nirvana. Et d'autres se pendent par les cheveux, d'autres se marchent sur des tessons de poterie et s'ouvrent les pieds, et tout ça pour attendre quelque chose. Mais ils se torturent, alors que nous avons une puissance de vie. La victoire de Jésus-Christ dans notre vie. Ça, c'est le côté positif. On règne, on a un pouvoir. J'aime bien ce verset dans un des psaumes, maintenant le numéro ne me revient pas à l'esprit, je l'ai lu il y a 2-3 jours, mais il dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Vous savez qu'il y a un verbe en français qui ne se conjugue pas à l'impératif. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « peut ». Le verbe pouvoir se conjugue pas à l'impératif. Il est défectif sur l'impératif. Voilà. Mais Dieu peut le dire. Et il l'a dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc on est obligé de le traduire comme ça, parce qu'on ne peut pas dire ton Dieu dit peu, parce que ça n'existe pas. Mais Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et il a donné tout ce qu'il fallait pour l'être. Et si nous ne le sommes pas, si nous sommes des chrétiens médiocres, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la nôtre. C'est aussi la faute aux personnes qui ne nous ont peut-être pas dit toujours tout ce qu'il fallait. Parce que évidemment, pour moi, j'ai cherché longtemps. Et je n'ai pas rencontré les livres et les pasteurs et les gens qui auraient pu me dire ces choses-là. Et je suis, dans une certaine mesure, satisfait parce que je sais de qui je le tiens. Et c'est dans la prière et c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Et je sais quand ça m'a bouleversé et comment. Et je sais que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est dommage que les choses ne soient pas dites plus clairement et que l'on n'insiste pas davantage sur une vie victorieuse. Et que le chrétien n'est pas un chrétien médiocre ou un chrétien maussade ou un chrétien qui traîne son existence, mais un chrétien qui est victorieux, un chrétien qui triomphe, un chrétien qui regarde le monde et le diable et le péché comme étant vaincu. Et qui regarde dans la victoire de Christ toute la satisfaction qu'il peut avoir. Il dit oui, c'est en Christ que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est en Christ que nous avons tout pleinement, que nous avons tout reçu. Tout pleinement, nous allons le voir un peu plus tard. Mais nous avons tout reçu en Christ. Il ne nous manque rien. Nous sommes comblés au-delà de toute mesure. Cette vie de résurrection nous a transcendés. Elle nous a amenés au-delà de nous-mêmes, au-delà de toute possibilité, de tout rêve. Aucune religion ne peut vous proposer des choses comme cela. Oh, bien sûr, il y a les gens avec le chamanisme et tout ça, les tours de magie. Et ils sont super puissants. Puissants de quoi? De rien du tout. Il faut qu'ils essayent et ils n'y arrivent pas toujours. Et ils y arrivent même rarement. Tandis que le plus petit d'entre nous peut être un serviteur de Dieu efficace et puissant. Puissant par le témoignage, puissant par la prière, puissant par une vie chrétienne victorieuse, triomphante, une vie qui gagne des victoires, une vie qui combat efficacement, une vie qui avance et qui fait des progrès. C'est la puissance de la résurrection. Et donc, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, Paul le dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Donc il y a le mot « connaître ». Et on avait parlé de connaître Christ. Mais il y a connaître aussi la puissance de la résurrection. Et donc, c'est une connaissance. On doit chercher à savoir et à aller plus loin. Et vous pouvez faire des progrès même dans cette connaissance de la résurrection et de la puissance de la résurrection. Et vous pouvez savoir à quel point Dieu nous a donné et nous a équipés de sa puissance de résurrection pour triompher et pour avancer de progrès en progrès. Et de vaincre l'ennemi de jour en jour, jour après jour, instant après instant, et vivre une vie chrétienne qui compte, une vie chrétienne qui est vraiment la gloire de Dieu. C'est donc Paul dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection, c'est verset 11, il ajoute une chose, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, pour parvenir, conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, ça peut paraître paradoxal, parce qu'il dit que l'on est, et puis après, il dit qu'il voudrait l'être. Mais dans toutes ces choses, nous avons la chose, mais nous devons progresser en elle. Nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons la plénitude de la résurrection, mais néanmoins, il y a des progrès à faire en cela. Ce n'est pas quelque chose, voilà, pof, ça nous tombe d'un coup. Voilà, en une expérience, vous avez la plénitude de la résurrection, vous l'avez, vous vivez parfaitement. Plus jamais vous n'avez de problème, tout est parfait, vous êtes le chrétien, un super chrétien. C'est pas comme cela que les choses se passent. On commence par savoir, c'est le commencement. Et puis on poursuit en acceptant, en recevant cela. Et on se dit, c'est pour moi. Et ça devient notre, on se l'approprie. Et puis à ce moment-là, Eh bien, jour après jour, on fait des progrès dans la connaissance de la puissance de la résurrection. Parce que Dieu ne nous a jamais donné une connaissance pour la connaissance. Dans le monde, oui, il y a la gnose, il y a toutes ces choses, on a connaissance, on est supérieur par la connaissance. Mais ce n'est pas le cas. La connaissance et l'obéissance marchent ensemble. On ne connaît pas sans vivre. Il faut avoir accepté, il faut le savoir, et puis on grandit, et Dieu nous révèle davantage de choses sur cette connaissance, et puis finalement, eh bien, on grandit, on avance, on fait des progrès, et de progrès en progrès, et dans 2 ans, quand vous marchez comme cela, eh bien, vous êtes différent de ce que vous étiez 2 ans avant. Et dans 10 ans, vous serez encore différent. Vous avez fait des progrès dans la résurrection. Vous marchez dans la résurrection de Christ, de progrès en progrès et d'efficacité en efficacité. Et Dieu vous équipe toujours davantage. Mais tout cela, vous l'avez. C'est votre. C'est à vous. Donc, c'est très, très important. Je voudrais lire un passage dans Colossiens. Au chapitre 3, c'est tout le programme de la résurrection. Colossiens chapitre 3, les 3 premiers versets, les 4 premiers versets. Nous lisons. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non point à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc il y a ces deux mots, hein, la résurrection et la mort. Donc il dit, vous êtes mort, car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous êtes mort, c'est derrière, hein. C'est pas vous, efforcez-vous d'être mort. Ça, c'était l'erreur que j'ai commise pendant des années. Malheureusement, c'est des années. Mais il dit, il y a une conditionnelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, puisque vous dites, hein, on pourrait le prononcer comme cela, si vous vous dites ressuscité avec Christ, alors prouvez-le. Parce que vous l'êtes. Vous devez le vivre, vous devez l'accepter. Mais à partir du moment où vous l'êtes, alors il y a des choses qu'on met de côté. Des choses qui ont tendance à nous tenir dans la mort. Ce sont les choses de ce monde. Ah, bien sûr, nous n'allons pas vivre dans un monastère. Mais Paul nous dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ces choses-là, on les a comme nous ne les ayons pas. Vous pouvez avoir une belle voiture, mais la belle voiture, elle ne vous tourne pas la tête. Et vous pouvez la changer, vous pouvez la perdre, vous pouvez en avoir une moins bonne ou une moins belle, ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'avoir le véhicule dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, ben, vous n'avez pas besoin, n'en avez pas. Si vous avez une maison, grâce à Dieu, donnez gloire à Dieu. Vous n'en avez pas, c'est bien. Vous en avez une, tant mieux. Rendez gloire à Dieu et remerciez-le pour les biens qu'il vous donne. Mais toutes ces choses, le cœur ne s'y attache pas. Vous les avez, c'est bien. Vous ne les avez pas, tant pis. C'est si vous êtes ressuscité avec Christ, ces choses n'ont pas de pouvoir. Et combien de fois, malheureusement, mes frères et sœurs, je vois des chrétiens accaparés par les choses de ce monde. Et ils sont en train de parler des choses de ce monde comme si leur éternité allait être conditionnée par tout ça. Et si dans l'éternité, ils vont pratiquer toutes ces choses, tout cela va passer et va disparaître, n'aura plus aucune importance. Un jour, nous serons avec Christ pour l'éternité. Et je vais vous dire, les larmes que nous allons verser, parce que nous allons verser des larmes, c'est les larmes de regret d'avoir pas donné notre vie à Christ totalement comme nous aurions dû le faire. Alors que nous avons été accaparés, si peu que ce soit, mais ces choses-là vont nous troubler. On va se dire, tout ça, ça a pris beaucoup trop de place dans ma vie. Et je n'ose même pas dire les choses qui nous accaparent. Parce qu'il y a des choses qui sont avouables et il y en a qui devraient nous consterner et nous mettre dans les larmes et dans le désespoir parce qu'elles ont pris tellement de place dans notre vie. Mais Paul dit, hein, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Regardez à ce qui est en haut. Quelles sont ces choses qui sont en haut? Quelles sont ces vérités qui doivent nous captiver, nous rassurer, qui doivent nous consoler, qui doivent être notre nourriture quotidienne? Il faut que Christ prenne la première place. Ce qui est en haut, la première de tout ce qui est en haut, c'est Christ. C'est Christ notre vie, c'est Christ notre joie, c'est Christ lui dont nous avons tellement besoin. C'est lui qui remplit notre vie, notre cœur, notre espérance, qui est notre joie sur la terre maintenant et qui la sera dans l'éternité. Nous devons rechercher Christ toujours plus. Nous devons l'aimer et le désirer, grandir dans sa connaissance et marcher dans sa lumière. C'est, oh bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a un ascétisme et un mysticisme qui n'est pas biblique. Hein. Et il y a des gens qui, ceux qui cherchent de Christ, c'est une expérience mystique. Mais nous n'avons pas à faire des expériences mystiques. Tout ça, on le met de côté. Mais on lit la parole de Dieu et on la médite et on l'approfondit. On cherche Christ dans la parole. Et ce Christ que nous découvrons dans la parole, eh bien, prend de plus en plus de place. Il devient de plus en plus précieux. C'est, je peux dire, il y a des moments où Christ vient près de nous, hein, il vient si près de nous que la foi, on peut presque le toucher tellement il est près. Il y a des moments où il nous parle et il nous dit des choses si belles et si profondes. Et vous dites, mais ça Seigneur, je le savais, mais je ne le savais pas. Il y a des moments où Christ est si près parce que nous l'aimons. Parce que nous désirons encore l'aimer davantage. Nous désirons encore vivre pour lui et marcher à sa lumière. C'est Paul parlait de ceux qui n'aimaient pas Christ. Hein. Il parlait avec larmes. Ils ne servent pas Christ, ils servent leur ventre. J'en ai parlé, j'en parle encore avec larmes. Regardez, est-ce que vous pouvez vous analyser et dire... Je cherche ce qui est le contenu de mon estomac. Et je cherche des choses et ceci et cela. Est-ce que l'on cherche Christ? Il y a des personnes qui font des études supérieures, et qui arrivent à avoir de très gros diplômes et même des positions très élevées. Mais ce sont des personnes qui se privent de manger. Qui se privent de distractions, qui n'ont pas de loisirs, qui se privent même de pas mal de choses de la vie de tous les jours parce qu'ils ont un but, c'est réussir. Et je connais quelqu'un en particulier qui est de ma famille, c'est une personne opiniâtre qui a vraiment essayé, qui a réussi hautement, largement, et loin de Dieu bien sûr, mais réussi sa vie d'une manière spectaculaire. Tout a été consacré dans une seule et même direction, réussir sa vie professionnelle. Mais sa vie spirituelle a été ratée. Et malheureusement, eh bien, beaucoup de chrétiens sont comme cela. Et s'ils s'étaient acharnés à chercher Christ, à marcher fidèlement, comme ils se sont acharnés à réussir leur vie professionnelle et leur vie sociale, eh bien, ils auraient gagné Christ. Parce que Paul dit, gagner Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez, vouloir marcher avec Christ au point de le gagner, que Christ soit vraiment tout. Et je peux vous dire qu'il y a en Christ des profondeurs que vous n'imaginez même pas. Satan essaiera de vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va connaître de Christ? On va faire le tour de la question. Du point de vue doctrinal, oui. Vous pouvez faire le tour de la question, vous connaissez tous les versets et vous savez que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est, etc., hein, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra. Et je pense, si ma mémoire est bonne, je pense, le cours de Christologie, l'étude de Christ, de doctrine, eh bien, était un tiers du cours de doctrine que nous avions pour les 3 ans. Tous les autres cours de doctrine étaient courts à côté. Hein. Celui-là, il a pris 1 an. Carrément, hein, c'est sans problème. Mais ce n'est que de la doctrine. Bon, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas comme cela que nous le connaissons. Nous le connaissons d'une autre manière. Il y a une proximité de Christ. C'est la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. On le connaît. On cherche les choses qui sont en haut et pas celles qui sont en bas. Celles qui sont en bas, nous ne pouvons pas nous en priver parce que nous ne vivons pas, nous ne sommes pas des ascètes. Nous ne sommes pas en train de pratiquer une religion de privation, mais néanmoins, ces choses, on les relativise beaucoup. Elles n'ont pas autant d'importance que cela. Et elles n'ont surtout pas l'importance que les gens de ce monde leur donnent. Et ce que certains chrétiens donnent aussi à ces choses. Si vous ne les pratiquez pas, vous en porterez mal. Parce qu'il faut s'habiller chaudement, il faut manger à sa faim, il faut avoir, etc., etc. Mais si vous vous privez, si vous ne faites pas attention, vous aurez des problèmes et vous risquez même d'abréger votre vie. Mais ces choses, vous devez les relativiser. Elles ne doivent pas prendre tant de place. J'entends des discussions, mes frères et sœurs, de mangeaille, de voiture, d'ordinateur, de choses comme cela et tout, et tout, et tout. Mais à un certain moment, je vous dis, c'est à vomir. Parce que ça prend tellement de place dans nos conversations. Nous nous réunissons entre chrétiens pour un culte. La première chose que nous discutons après le culte, c'est de choses de balivernes, de choses qui n'ont absolument aucun sens, des propos insensés. Nous sommes des insensés. Parce que nous disons des choses qui nous feront rougir de honte devant Christ pour l'éternité. Parce que nous avons manqué l'essentiel. Nous avons manqué Christ. Nous parlons de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Christ remplit votre vie, eh bien vous allez avoir l'abondance de Christ. Et c'est vrai qu'il y a des moments, eh bien, on préfère dire non. Toutes ces conversations-là, je ne préfère pas. Et on préfère se tenir un peu en arrière. Il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, portez vos affections vers ces choses, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est cette vie cachée en Christ. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est l'histoire de mon petit papier dans le livre. Hein. C'est « Notre vie est cachée avec Christ. » C'est Christ que l'on doit voir, c'est pas nous. Les gens doivent voir Christ. Et plus vous marchez avec Christ, plus vous marchez dans sa proximité, et plus il y a une ressemblance à Christ qui s'impose à votre vie. Et les gens disent, mais il y a quelque chose de Christ dans cette personne. Je me rappelle de cet homme, c'était le gendre de John Knox. Alors bon, John Knox, c'est le réformateur de l'Écosse, hein. Et le gendre de John Knox, on n'en parle pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Mais un des contemporains de cet homme, quand il est mort, il a dit « Cet homme était un type de Christ. Il ressemblait tellement à Christ. » Je me rappelle d'un autre qui s'appelait Jean de la Fléchère. En anglais, c'est John Fletcher. Il est beaucoup plus connu comme John Fletcher, mais il s'appelait Jean de la Fléchère. Et il a vécu en Angleterre la plupart de sa vie. Et quelqu'un a pu dire, et c'est John Wesley lui-même, pourtant, il n'était pas du tout du même bord doctrinal, hein, mais il dit, Jean de la Fléchère, depuis l'apôtre Jean, personne n'a été autant rempli d'amour que Jean de la Fléchère. Et pourtant, c'était John Wesley qui parlait. Un homme, un chrétien authentique, puissant, profond, proche de Dieu. Mais quand il parlait de cet homme, il disait l'amour qu'il y avait dans cet homme dépassait ce que l'on pouvait imaginer. Dans l'histoire, on peut faire remonter qu'à Jean, si loin. Je peux vous dire, quand on marche avec Christ, ça se voit. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Pourquoi ? Parce que c'est Christ, parce que c'est sa vie, parce que c'est lui-même. Vous n'avez pas envie de pécher, pas plus que Jésus-Christ avait envie de pécher. C'est sa vie, il nous transforme. Si vous êtes caché avec Christ, c'est Christ. Le reste, ça n'a pas d'importance. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parce qu'on est caché en lui, nous paraîtrons avec lui en même temps que lui, puisque nous sommes tellement liés avec lui. C'est quand Christ... Votre vie, on n'a pas de vie par soi-même, c'est la vie de Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Il y a une identification, une union, une unité avec Christ tellement profonde, tellement grande, que là où est Christ, nous sommes. Là où nous sommes, là Christ est aussi. Nous ne pouvons pas être là où Christ n'est pas. Nous ne pouvons pas nous enthousiasmer pour des choses que Christ désapprouve. Nous ne pouvons pas nous baigner dans des choses, même, je ne parle même plus du péché, mais de ces choses qui captivent tellement et qui font oublier Christ et qui le font mettre de côté. Les choses d'en haut, vous savez, la plus grande des choses d'en haut, c'est Christ. Il résume tout le reste. Parce que si vous avez Christ, vous avez tout le reste. Si Christ vous manque, alors vous êtes vraiment pauvre. Il vous manque l'essentiel. Il vous manque ce que vous ne pouvez pas produire. Votre religion chrétienne, baptiste, ne pourra pas produire Christ. C'est Christ en vous. C'est quand vous l'acceptez, quand c'est lui qui prend la première place, quand c'est lui ressuscité, lui vivant, lui tout-puissant dans votre vie, eh bien c'est là que les gens voient et disent « Ah mais il y a quelque chose que je voudrais avoir. » C'est là l'authenticité. C'est la marque de fabrique. Nous sommes en Christ. Nous sommes scellés de Christ. Les gens voient Christ. Et les gens voient et disent, ah, mais ça, ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est la vie de Christ dans cet homme. Et il y a une manière d'être, une manière de faire qui est la manière de Christ. Et cette manière de Christ, eh bien, elle convainc, elle bouleverse. Et nous n'avons pas besoin de dire, oui, mais je vais vous prouver que la création, c'est une création, il n'y a pas d'évolution, et que on passe à autre chose. Et on parle de Christ, de celui qui remplit notre vie, celui qui est notre joie suprême, celui qui a bouleversé notre vie. Nous parlons de celui qui est le vainqueur de notre vie, celui qui a triomphé de nous, celui qui est, nous sommes captifs de Christ. Et Paul disait, captifs de Christ, esclaves de Jésus-Christ, liés à Jésus-Christ pour l'éternité. Je marche dans le triomphe de Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux et qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. C'est la puissance et la vie de résurrection. Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur la vie. C'est la mort est morte. Ce qui est vivant est vivant. Je vais terminer avec une petite histoire. Je me rappelle, à une époque, j'ai travaillé pour un éleveur de chevaux. Voilà. Il m'a embauché pour désherber son jardin. Et puis finalement, j'ai construit ses écuries. Donc, je suis monté en grade. En 3 mois, ça a été vite fait. Donc, on a sympathisé. Il savait ce que je savais faire. Et je le faisais et ça marchait bien. Et alors, un jour, il a dit, tu vois, ce mur, il faudrait l'abattre. Et le mur, était ouvert comme ça. Et il penchait d'un côté. Et puis l'autre partie, il penchait de l'autre. Alors, il était perdu, on ne pouvait rien faire avec ce mur, hein. Il fallait le démolir. Donc, on a pris l'équipe et on a démoli le mur. Et alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi ce mur en est arrivé là? Parce que c'est curieux qu'il se soit démoli de cette manière-là. En fait, il y avait un arbre qui était planté au pied du mur. Et il y avait une sorte de caniveau qui passait au pied du mur. Et l'arbre était dans le caniveau. Et alors, il avait soulevé le mur. Ses racines avaient... Et c'est un très beau être. Il avait soulevé le mur, il avait désarticulé dans tous les sens. Il ne manquait plus qu'à abattre ce mur. Le mur était mort. Et l'arbre était vivant. C'est la puissance de la vie sur la mort. Et vous savez, quand cette vie a commencé, quand une toute petite graine est tombée au pied du mur, et la petite graine était insignifiante. Et le mur était large, pesant, fort. Il était là depuis longtemps. Et la graine n'a pas manifesté beaucoup de choses. Au début, c'était comme une petite herbe. Et puis, ça a grandi. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le mur commençait à ne plus être fier, hein, à côté de la graine. Ou plutôt à côté de l'arbre. La graine était devenue un bel arbre. C'est la puissance de la vie qui triomphe de la mort. Et vous avez peut-être des murs dans votre vie, mais la puissance de la vie qui est semée en vous, laissez-la croître. Donnez-lui tout ce qu'il faut pour croître. Et vous verrez que les choses de la mort, elles vont disparaître. Voilà, je termine là.